Vibes. Good Vibes. Bienvenue sur Good Vibes, l'émission des lycéens de Charente-Maritime diffusée sur Radio Collège 95.9. Au programme des podcasts et interviews sur des sujets faits par les jeunes et pour les jeunes.
La sixième émission de l'année scolaire 2025-2026, Good Vibes. Aujourd'hui, on a un programme très connoté sciences et histoire, avec vos chroniques tant attendues que vous connaissez bien maintenant. Nous débuterons aujourd'hui avec Cassien, qui nous parlera de la capacité de notre gouvernement à entrer dans l'ère du numérique. Nous enchaînerons ensuite avec Ethan et sa pensée philosophique de la semaine, qui nous parlera de la folie. Pour varier les plaisirs, Camille a choisi un sujet qui peut tomber opaque et vous racontera l'histoire du mur de Berlin. Alors, à vos crayons, à vos oreilles. Sergeant Pepper et Lullaby nous plongera dans l'univers du grunge. Et nous continuerons avec un nouveau sujet d'histoire par Virgile qui s'intéresse à la figure de Gorbatchev. Bon, allez savoir pourquoi. Le hot dog revient aussi dans cette émission avec son actualité scientifique du mois. Et nous terminerons par le fameux conseil jeux vidéo de notre chroniqueur de l'Apocalypse, Tom. Donc comme vous voyez, on a un riche programme, très science, très connoté histoire, toujours avec une touche de musique et bien sûr la chronique de l'Apocalypse. Alors ne perdons pas de temps, c'est parti. Et si vous n'avez pas pu tout écouter, n'oubliez pas, l'émission est à réécouter sur radiocollège.fr dans l'émission Good Vibes. Allez, c'est parti!
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Un DDoS, c'est une attaque ciblant un serveur dans le but de le surcharger d'informations en lui demandant trop de connexions simultanées. Et je dois vous avouer quelque chose, j'ai participé à un DDoS contre un serveur de l'éducation nationale. C'était en 2024 et j'ai cherché à me connecter en même temps que tous les troisièmes qui avaient passé le brevet pour voir mes résultats. Bon, d'accord, c'est pas un vrai DDoS, mais ça fait bien sur mon CV. Salut à tous, c'est Cassien du Civil Jeu et aujourd'hui on va parler de la formidable capacité de notre gouvernement à entrer dans l'ère du numérique. L'exemple que j'ai donné en intro n'est qu'une des trop nombreuses fois où les serveurs de téléservice ont lâché. Le problème c'est que l'infrastructure des serveurs n'a pas l'air de changer alors qu'on sait à l'avance que ça va se passer. J'ai même retrouvé un message envoyé à un pote 3 jours avant la fameuse connexion au serveur du brevet qui prévoyait la galère que ça allait être. Même moi je le savais. Alors pourquoi personne n'a bougé ? Le problème vient de la façon dont c'est géré. Les sites comme Netflix, par exemple, reçoivent bien plus de charges que les ENT, mais les gens derrière sont bien plus préparés. Ils ont fait des tests en conditions réelles et écoutent les utilisateurs sur ce qu'il faut corriger. D'un autre côté, ils n'ont pas le même cahier des charges ni le même marché, mais c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Bref, le problème, c'est pas que tout le monde se connecte en même temps. Le problème, c'est que tout le monde devait se connecter en même temps et que personne n'a jugé utile de s'y préparer. Et la transition numérique n'est pas un problème que pour l'éducation nationale. La Poste, par exemple, a été victime d'une attaque DDoS dès ce début d'année. Une vraie, cette fois. Je dis pas que c'est possible de bloquer des hackers ultra chauds pour tout faire péter. Je dis qu'il y a une différence entre acheter une série de coffres forts et laisser la porte ouverte. Dans tous les cas, l'attaque est difficilement évitable, mais des parades ont été inventées pour limiter la casse. Je pourrais aussi bien sûr parler de l'interface horrible de certains sites du gouvernement. Je fais par exemple encore des cauchemars de mon test de positionnement de français. Vous avez oublié l'existence du CSS. Mais je vais pas atterrir sur le multiple là, ça se fait pas trop. Bref, le problème n'est pas tant que le gouvernement n'est pas prêt, enfin non, il est pas prêt. Mais le problème vient aussi du fait qu'ils veulent tout passer au numérique, les cartes vitales, les inscriptions aux écoles, les impôts, alors qu'actuellement ils sous-estiment les problèmes que ça engendre. En tout cas, moi, tant que Pronom était down, je me porte bien, à plus.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Je suis mentalement stable. Cette phrase est un grand mensonge que j'aime affirmer au grand quartier des hommes. Les passants pensent que c'est la vérité, alors ils me laissent marcher loin devant sans questionner où je vais. Et pourtant, j'ai longtemps pleuré seul quelques nuits, marché seul sur le long chemin de la vie. Mais au final, comment peuvent-ils savoir que je n'ai pas dit la vérité ? Et pourquoi, moi, je mens ? Eh bien, parce que la vérité fait peur. Stress est trop dur à accepter. Elle peut brusquer, détruire, mais surtout, elle divise les hommes entre deux camps, les courageux et les effrayés, ceux qui acceptent et ceux qui fuient. Car une fois en face de la vérité, on ne peut plus reculer, on doit garder la tête haute et l'accueillir comme il se doit. Pleurer dans le vide ne sert qu'à détruire les espoirs et les rêves qui nous animent. Car c'est en vivant dans le mensonge qu'on s'expose à la folie, à la chute. Tomber de haut sans jamais penser, c'est le destin de beaucoup d'hommes qui s'y sont frottés, qui n'acceptent pas qu'ils tombent, qui n'acceptent pas la vérité. Mais moi, je ne compte pas tomber, ça jamais. Au contraire, je compte m'envoler plus haut que ceux avant moi. Moi, j'ai décidé d'arrêter de fuir, de vivre comme j'ai toujours voulu. Pas comme on m'a dit de vivre. Car loin devant, sur ce chemin que je suis, les pas ont été effacés, je le crains. Mais ce n'est pas en reculant que je vais avancer. Alors je marche, pour moi et pour tous ceux qui viendront après.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Bonjour à tous, c'est Okamine du lycée Vieljeu et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est au programme, la rubrique qui parle des sujets qui peuvent arriver au bac. Aujourd'hui, on va parler histoire avec un sujet qui me fascine, le mur de Berlin. Pour poser le contexte, nous sommes en 1945. L'Allemagne nazie a perdu la Deuxième Guerre mondiale et quatre pays se partagent le territoire. La France, l'Angleterre, les États-Unis et l'URSS. Les Occidentaux, plus les États-Unis, veulent raviver l'Allemagne. En 1948, ils décident donc de réunifier leur territoire pour créer la RFA, République fédérale allemande, et créer une nouvelle monnaie, le Deutschmark, pour relancer l'économie. Mais l'URSS n'aime pas trop ça. Il le voit comme une menace. Résultat, en juin 1948, le blocus de Berlin commence. Les soviétiques bloquent tous les accès à la partie ouest de Berlin, qui est sous le contrôle de la RFA. Les routes, les voies ferrées et les canaux sont bloqués. Leur objectif est que les Occidentaux abandonnent Berlin-Ouest. Mais un pont aérien est vite mis en place. La US Air Force et la Royal Air Force ravitaillent la population de Berlin-Ouest. Et un an après, en mai 1948, le blocus finit par tomber. En conséquence, les soviétiques créent la RDA, la République démocratique allemande. Entre 1949 et 1961, plus de 3 millions de personnes quittent la RDA pour la RFA. Les raisons sont une meilleure qualité de vie, des salaires élevés, une liberté d'expression. Tout cela a amené la RDA à prendre des mesures contre cet exode. Pendant la nuit du 12 au 13 août 1961, des barbelés ont été installés empêchant les personnes de Berlin-Est à traverser la frontière. Plus tard, un mur sera construit. 155 km de long séparent les deux parties. Des gardes surveillent le mur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour l'avoir vu en vrai, c'est très impressionnant. Beaucoup de personnes ont essayé de passer ce mur. Officiellement, 140 personnes seraient mortes en essayant de passer. C'est devenu un symbole important de la guerre froide. Une séparation entre ces deux idéologies opposées. Heureusement, le mur de Berlin a été détruit. En 1989, l'URSS est affaiblie. Et le 9 novembre, Günther Schabowski, premier ministre à la tête de la RDA, annonce dans un discours qui ouvre les frontières. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on lui a demandé sur le coup quand est-ce que cette mesure sera-t-elle mise en place. Ce qu'il a répondu avec cette phrase culte, « Autant que je sache, immédiatement ». Sauf que les gardes qui surveillaient le mur n'étaient pas au courant. Je vous laisse imaginer la surprise qu'ils ont eue quand ils ont vu une tonne de personnes arriver et essayer de passer la frontière. En tout cas, une partie du mur a été brisée, le mur est tombé, Berlin est enfin libre. Merci de m'avoir écouté, c'était Okami pour C'est au programme et n'oubliez pas, « A wall is hell of a lot better than a world ». En français, un mur est bien mieux qu'une guerre.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Bonjour et bienvenue dans Comme As You Are, l'émission pour briller auprès de ton oncle fan de musique hors pas de famille. Moi c'est Lou Labaye.
Et moi c'est Sgt Pepper. Et dans notre cinquième épisode, nous allons parler du grunge.
Années 70 émerge le punk, qui avec le temps va devenir plus violent et rapide, avec le punk hardcore entre autres. Black Flag étant un de ces groupes de punk hardcore. Mais en 1984, ils sortent un album appelé My War. L'album n'est pas très bien accueilli par une partie du public, car ils trouvent que les chansons sont un peu trop calmes. Tout est relatif. Cependant, ça va être le début d'un nouveau style, le grunge.
C'est quoi le grunge ?
Le terme a été utilisé pour la première fois en 1987 par Bruce Pavitt pour le groupe Green River. Le style grunge vient de Seattle et est un mélange de punk, de metal et de hardcore. Chaque groupe mélange ces trois styles à sa façon, faisant du grunge un style assez large. Il s'inspire de Black Sabbath, notamment la façon dont le guitariste accorde sa guitare, du groupe Bam Bam, qui aurait pu être considéré comme un des premiers groupes de grunge et qui aurait pu avoir un succès, mais dû au racisme, il reste seulement quelques enregistrements de certaines chansons. Cependant, Kurt Cobain était un grand fan. Car évidemment, on ne peut pas parler du grunge sans parler de Nirvana. Ils font partie des Big Four avec Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, dont on reparle après. Les Big Four sont considérés comme les quatre groupes importants du grunge. Ils étaient tous les quatre très prometteurs, mais à la sortie de Nevermind en 1991, c'est bien Nirvana qui va devenir très populaire, mettant les trois autres groupes de côté. Cependant, l'album d'Alice in Chains, sorti en 1992, Dirt, est considéré comme un des albums qui définit le mieux le grunge.
C'est quoi l'esthétique grunge ?
Pour ce qui est de l'apparence, un peu comme le punk, le but est de ne pas se conformer aux codes de la société. Mais plutôt dans le sens comme si on ne savait pas s'habiller. Souvent des vêtements pas chers qu'on peut trouver facilement en friperie. Des jeans troués, des chemises au-dessus de t-shirts. Le style vestimentaire n'avait pas vraiment d'importance jusqu'à ce que Sub Pop essaye de rendre le grunge plus marketable. Ce qui est une des raisons de pourquoi les groupes n'aiment pas vraiment être définis par le grunge, car certaines maisons de disques ont essayé de rendre ça cool et à la mode, alors que le but était justement de ne pas rentrer dans les codes de la société.
Et musicalement, ça donne quoi ?
Pour définir musicalement le grunge, comme je l'ai dit, c'est un mélange de punk, de métal et de hardcore. Il y a de la distorsion, des guitares et de la batterie agressive, des cris, des bruits, rien n'est propre et parfait. Les paroles sont souvent assez tristes, parlant d'addiction, et comme le punk, parfois elles peuvent être engagées. Mais malheureusement, avec l'arrivée de la Britpop et du nu metal, de la mort de Kurt Cobain en 1994, la séparation de Soundgarden, et avec Alice in Chains étant plutôt inactif à cette période, le grunge va vite s'éteindre. En 2002, lorsque Lane Staley, chanteur de Alice in Chains, meurt d'une overdose, c'est considéré comme le dernier clou du cercueil du grunge. Seul Pearl Jam, des Big Four, est encore vivant et actif, en tout cas jusqu'en 2024. En soi, le style est encore un peu là, de petits groupes jouent ce qu'on pourrait considérer du grunge, mais ça n'a plus vraiment l'importance d'avant. Maintenant, je laisse la parole à Sgt Pepper.
Et pour aujourd'hui, sortez les Walkman et les Skate, puisqu'on va parler de Super Unknown de Soundgarden.
Mais qu'est-ce que c'est donc ?
Soundgarden, c'est un groupe originaire de Seattle et formé en 1984. En 1994, après 10 ans de carrière, de nombreuses tournées et 3 albums qui ont un succès relatif, les 4 membres du groupe en ont marre et ont besoin de changement dans leur musique. Fini les sons des 2 derniers albums qu'ils trouvaient trop lisses, ils veulent pour le nouvel album faire quelque chose de plus libre. Ils réunissent leurs influences, le punk, Black Sabbath, Led Zeppelin, le rock psychédélique, une passion pour les textes de la poétesse américaine Sylvia Plath et un bon dégoût pour la société américaine, pour produire ce qui sera leur plus grand succès, Super Unknown. Ce qui est quand même un sacré paradoxe. Vous l'aurez compris, le style de l'album est assez diversifié. On retrouve des musiques avec un son assez vieux punk, comme Kickstand, de longues musiques qui se construisent peu à peu à la manière des groupes comme Led Zeppelin, ou même des trucs plus atypiques, comme Alf, inspiré de la musique indienne. L'album dure 1h10 et comporte 15 titres dans des styles variés, mais est pourtant très digeste pour le grand public, ce qui est l'un des atouts de l'album. En fait, même avec de nombreuses influences, l'album ne se perd pas et garde toujours un style reconnaissable, marqué par une grande place laissée à la batterie, la voix de Chris Cornell qui monte vite dans les aigus, parfois claire et posée ou parfois très puissante, et des riffs avec une sonorité assez sombre, notamment grâce aux effets et à des tas d'accordages différents, souvent joués assez graves, ce qui contraste avec la voix du chanteur.
Tu as parlé d'un style assez sombre, tu peux nous en dire plus ?
Ouais, faut pas oublier que l'album est emblématique du grunge. Et qui dit grunge dit...
mourir jeune.
Ouais. Inspiré par la société des USA des années 80 et les textes de Sylvia Plath, l'album évoque beaucoup de thèmes sombres. La toxicomanie, la dépression ou le suicide. Et toujours avec une forme de sarcasme, un humour noir. Le tout traduit en musique donne un résultat assez sombre, voire parfois dérangeant. Je vais prendre l'exemple de Black Olson, une espèce de balade nihiliste. Le clip nous montre un quartier aux habitants dont le visage est tordu par un sourire brisé. Les couleurs explosent les yeux, les tenues sont ridiculement excentriques, et on voit tout le monde comme aliéné, absorbé par leurs activités, et le monde se détruire peu à peu. La première fois que j'ai vu le clip, la vieille 3D et les images kitsch m'ont fait rire, mais l'esthétique m'a vite mis mal à l'aise en fait. On dirait vraiment un vieux dessin animé qui s'est fait pirater.
C'était le 5e épisode des Come As You Are.
Déjà ? Bah dis donc.
Comme d'habitude, on se dit à dans 2 semaines pour un épisode sur...
la trip-hop.
D'ici là, portez-vous bien.
Et comme dit Soundgarden, feel the rhythm in your hands.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Ces quelques notes ont été jouées par le violoniste Rostropovich lors de la chute du mur de Berlin, le 11 novembre 1989. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y a un peu plus de 40 ans, Mikhail Gorbatchev est arrivé à la tête de l'URSS. En 1985, Mikhail Sergueïevitch Gorbatchev devient secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. À 54 ans, il est le plus jeune dirigeant de l'histoire soviétique depuis Staline. L'homme qui entre au Kremlin n'est ni un dictateur froid, ni un idéologue intransigeant. C'est un homme pragmatique, attentif à la souffrance de son peuple et conscient de la fragilité de son pays. À son arrivée, l'URSS est un géant épuisé. Les villes sont grises, les files d'attente interminables, et le rationnement touche même les produits de première nécessité. L'industrie lourde, héritage de l'ère soviétique, domine le paysage économique. Les ouvriers et ingénieurs travaillent dans des conditions déplorables, souvent sans réelle motivation, et l'échec industriel se cache derrière des statistiques erronées. La population vit dans la frustration et la méfiance, conscient de l'écart grandissant entre la propagande officielle et la réalité. Les jeunes, eux, rêvent d'Occident, de voyage, de musique et de culture qu'ils découvrent par la radio et les cassettes illégales. Politiquement, le Parti communiste règne en maître depuis des décennies. Le système est rigide et autoritaire, la censure est omniprésente et les dissidents sont contraints aux travaux forcés. La grande majorité du budget est consacrée à l'armement et la famine ravage le pays. À l'international, le contexte est tendu. La guerre froide se poursuit depuis des décennies et la course aux armements nucléaires épuise les ressources. L'intervention soviétique en Afghanistan, commencée en 1979, est un bourbier qui coûte des milliards, affaiblit la confiance dans l'armée et provoque des milliers de morts parmi les soldats soviétiques. Les relations avec les États-Unis restent glaciales et le monde vit sous la menace permanente d'un conflit nucléaire. Gorbatchev arrive avec une vision claire. L'URSS doit se réformer pour survivre. Sa première grande initiative est la perestroïka, la restructuration économique. Contrairement à certains dirigeants soviétiques du passé, il comprend que la centralisation totale ne peut fonctionner. Il cherche à responsabiliser les entreprises, à introduire des éléments du marché, à réduire le gaspillage et à stimuler l'innovation sans remettre en cause l'état social. Dans le même temps, il lance le glasnost, la transparence en français. Pour la première fois depuis des décennies, la critique du gouvernement devient possible. Les médias commencent à publier des enquêtes sur la corruption et les dysfonctionnements, et la population découvre des vérités longtemps cachées. Les purges staliniennes, aux catastrophes industrielles comme Tchernobyl, les citoyens peuvent désormais discuter, débattre, questionner le parti, et même exprimer leurs opinions publiquement. La mise en œuvre de ces réformes est délicate. Les conservateurs du parti, attachés à leur pouvoir, freinent chaque initiative. La population, elle, attend des changements rapides. L'économie, cependant, ne réagit pas immédiatement. Les pénuries persistent, les prix augmentent et le mécontentement grandit. Gorbatchev doit naviguer entre les forces hostiles et des attentes populaires souvent irréalistes, tout en maintenant la stabilité du pays. Sur un plan international, Gorbatchev innove également. Il comprend que la survie et la modernisation de son pays dépendent autant de la diplomatie que de la puissance militaire. Il initie un dialogue constructif avec les États-Unis. Rencontre Ronald Reagan en 1985 et George Bush en 1989 et signe plusieurs traités de désarmement nucléaire. Ces accords, tels que le traité INF sur les missiles de portée intermédiaire, marquent la fin progressive de la confrontation directe et réduisent considérablement les risques d'une guerre nucléaire. En parallèle, l'Europe de l'Est devient un test pour Gorbatchev. Les républiques satellites, soumises depuis des décennies à la domination soviétique, réclament liberté et indépendance. Les mouvements populaires se multiplient. La Pologne voit Solidarność reprendre de la force. La Hongrie ouvre sa frontière avec l'Autriche. Et la RDA est confrontée à des manifestations massives sans précédent. Gorbatchev prend alors une décision historique. Il refuse d'envoyer l'armée pour réprimer les mouvements. Contrairement à ses prédécesseurs, il choisit de laisser le peuple choisir de leur destin. La chute du mur de Berlin en novembre 1989 devient le symbole de cette transition pacifique. Sa décision de ne pas intervenir militairement, perçue à l'époque comme prudente, est aujourd'hui reconnue comme un acte de responsabilité majeur. Pourtant, les réformes et les choix courageux de Gorbatchev ne suffisent pas à sauver l'Union soviétique. Les républiques soviétiques réclament leur autonomie, les tensions ethniques s'intensifient, et l'économie continue de s'effondrer. La Russie, l'Ukraine, la Géorgie, les États baltes, tous aspirent à l'indépendance. Gorbatchev tente de maintenir l'Union par des accords et des négociations. propose un nouveau traité fédéral pour donner plus d'autonomie aux républiques tout en préservant l'URSS. Mais l'élan est trop fort, les réformes arrivent trop tard, et les forces qui ont façonné le système soviétique depuis des décennies reprennent le dessus. En 1991, l'Union soviétique se disloque. L'héritage de Gorbatchev est complexe et ambivalent. Certains le critiquent pour l'effondrement du pays, d'autres louent son courage et sa capacité à éviter les bains de sang. Mais si l'on examine son parcours de près, on voit surtout un homme guidé par la conviction qu'il fallait agir, que le changement était nécessaire et que la transparence et le dialogue étaient indispensables. Gorbatchev n'a pas été un opportuniste ni un tyran, il a été un dirigeant sincère et profondément conscient des limites de son pouvoir. Il a tenté de réformer un système qui refusait de se réformer de lui-même. La leçon la plus profonde de son parcours ne réside pas seulement dans ses décisions, mais dans ce qu'elle révèle sur le modèle soviétique. Fondé sur l'égalité et le contrôle centralisé, le modèle soviétique a créé un État puissant mais rigide. Il pouvait accomplir des prouesses technologiques et militaires, mais s'est révélé incapable de répondre aux besoins fondamentaux de ses citoyens. Mikhail Gorbatchev nous a quittés en 2022. Son exemple reste vivant, non pas comme celui d'un héros incontesté, mais comme celui d'un homme qui a essayé de faire ce qu'il pensait juste dans un système profondément inflexible. Il nous rappelle que le courage politique peut résider dans la patience, la prudence et la volonté de transformer les choses sans violence. Et surtout, il pose une question essentielle. Un monde politique qui refuse de se remettre en question peut-il survivre ? La réponse, comme l'a montré Gorbatchev, est loin d'être simple. Mais elle est cruciale pour comprendre l'histoire de notre monde. Gorbatchev cherchait à réformer l'URSS pour la sauver, en ouvrant le pays et en modernisant son système, là où Vladimir Poutine, lui, vise à restaurer la puissance soviétique perdue par le nationalisme et la force. Quand l'un privilégiait le dialogue et l'adaptation, l'autre mise sur la confrontation et le contrôle, transformant la nostalgie du passé en projet expansionniste. Mais Gorbatchev l'avait dit lui-même lors de son discours en 1991, « Je quitte mes fonctions avec inquiétude, mais aussi avec espoir, avec foi en vous, en votre sagesse et votre force d'esprit. »
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Salutations à tous, c'est le hot dog du lycée Vielleux et aujourd'hui on se retrouve pour les actualités scientifiques du mois où je prends le top des actualités scientifiques et vous les vulgarise. Au programme aujourd'hui, l'IA au cœur des papiers scientifiques et des supernovas des plus étranges. C'est parti. Connaissez-vous le peer reviewing ou revue par les pairs en français? Cette pratique consistant à revoir le travail de scientifiques afin de le publier est effectuée par des pairs, soit des scientifiques très pointus et calés dans le domaine visé. C'est grâce à cela que les grandes revues et les scientifiques ont la garantie que ce qui est publié dans les revues est rigoureux et véridique. Problème? La relecture est très, très, très longue. Les causes, le manque d'experts qui sont, rappelons-le, bénévoles et sursollicités, ce qui peut les pousser à commettre des erreurs. Dans une idée de rendre le processus plus rapide, l'IA est donc venue s'immiscer dans les affaires des scientifiques. Selon une entreprise de détection de l'IA, sur un échantillon de 70 000 études, 21 ont été rédigées par IA et plus de la moitié contenaient des interventions de celle-ci. On se retrouve donc avec de l'IA qui écrit des articles de science et qui se corrige elle-même. Ça ne fait plus de sens. Pourtant, pour plusieurs revues, l'idée n'est pas bête. Simplement, il faut la cantonner au rôle de mise en lumière des problèmes récurrents, permettant ainsi de mâcher le travail des relecteurs sans pour autant être seule autrice de la relecture. Déjà appliquée par plusieurs revues, cette méthode est en phase de devenir normale dans le monde de la relecture scientifique. Maintenant, quand vous lirez une étude publiée dans une revue prestigieuse, vous saurez tout le travail d'hommes et de machines qu'il y a derrière. Direction l'espace cette fois-ci, avec la découverte surprenante du satellite franco-chinois SVOM de la plus vieille supernova. Donc, gigantesque explosion à la mort d'une étoile très massive, jamais observée. Il faut savoir que dans l'espace, on voit les choses telles qu'elles sont dans le passé. Et ça, c'est dû à la vitesse de la lumière qui met du temps à nous parvenir. Et donc, lorsque l'on regarde une étoile située à une année-lumière de nous, on la voit telle qu'elle était il y a un an. Pour que vous puissiez vous faire une idée de la distance de la supernova découverte, notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre de 26 000 années-lumière. Et cette supernova se situe, attention, à 13 milliards d'années-lumière de nous. Et donc, a émis sa lumière il y a 13 milliards d'années. Rappelons ici que l'univers a 13,8 milliards d'années. À l'origine de cette découverte, un signal de 10,24 secondes émis comme un rayon gamma, mais qui, à cause de la distance et de l'expansion de l'univers, s'est décalé dans l'infrarouge et a été capté par le satellite. L'intérêt de cette découverte ? Comprendre les plus vieilles étoiles de notre univers. En effet, à cette époque, les étoiles étaient bien différentes dues à leur grande masse et leur durée de vie n'était que de quelques millions d'années, comparée aux 10 milliards du Soleil. Les rayons peuvent également renseigner sur la composition chimique des étoiles ou leur température, ce qui en fait une ressource précieuse pour les scientifiques pour comprendre les étoiles des débuts de l'univers. Sur ce, merci à tous, c'était le hot dog du lycée Vielgeux et on se retrouve le mois prochain pour toujours plus d'actualité et de science.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue dans la chronique de l'Apocalypse. Présentée par moi-même, Docteur Apocalypse. Aujourd'hui, dans la chronique de l'Apocalypse, nous allons vous présenter un petit jeu qui s'appelle Métro Exodus. Métro Exodus est un jeu vidéo post-apocalyptique FPS ou tir à la première personne, développé par le studio ukrainien 4Games, édité par Deep Silver. Métro Exodus est sorti le 15 février 2019 à l'International. Métro Exodus se déroule dans un univers post-apocalyptique dans lequel le monde a été ravagé par une guerre nucléaire, il y a de cela 23 ans. Les seuls survivants connus se sont réfugiés dans les lignes de métro moscovites. Il y a des radiations mortelles à certains endroits et des monstres mutants sont présents à cause de ces dites radiations. En plus de l'hostilité des monstres et des rudes conditions de vie, les habitants du métro se mènent une guerre sans merci de ressources et ou idéologiques. Vous incarnez Artyom, qui rêve d'un jour visiter le monde. Alors, chers survivants et survivantes, prenez votre fusil, des munitions et votre masque à gaz, car entre les mutants, les radiations ou les autres humains, vous ne savez pas ce qui va vous prendre la vie. Métro Exodus obtient la note de moyenne de 92% de la part de la presse pour les versions PC, et est noté très positif sur Steam avec 91% d'avis global, sur 1331 évaluations. Je vous conseille fortement de jouer à Métro Exodus, car le scénario et les phases de combat sont vraiment incroyables. Merci, c'était tout pour la chronique de l'Apocalypse.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Merci d'avoir écouté cette sixième émission de Good Vibes et merci à nos chroniqueurs de la semaine. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur le site de radiocollège.fr et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Avant de vous laisser avec Mickey, pour clôturer cette émission de Good Vibes, n'oubliez pas que le vendredi 5 juin 2026, à La Sirène, à La Rochelle, aura lieu la grande finale de Lycéo. Lycéo, ce sont les rencontres musicales des lycées de La Rochelle, mais pas que, puisque cette année, un groupe de Niort vient parmi les 7 candidats qui ont été sélectionnés cette année. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le compte Insta de Lycéo. Je souligne aussi le fait que c'est un événement soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. Et vous pouvez aussi surtout réserver vos places sur le site de lasirène.fr. A très bientôt sur les ondes de Radio Collège 95.9. Et maintenant, Mickey.
À 19 ans, j'ai bloqué sur un mec. 19 mois pour qu'il me sorte de la tête. Le garçon voit la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas passer mes sons. En même temps, j'aurais fait la même devant une meuf qui est aminée, pâteuse, pétasse, qui lui parle comme un moniteur de camp de vacances. Genre qu'avec des gigots, des dilos. Car je kiffe les mecs qui sont pas que des tamis. Mais j'avoue, j'ai vu la limite. Le dernier m'a poussé à bout de mes antivomites. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, 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 moi ça. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis, on contre-attaque. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Les gens qui boivent tes bubble tea me dégoûtent. J'en fais partie. au rayon mélancolie. Je mets des kidras même si ça me gêne. Je kiffe les courses et qui draguent même si ça me gêne. Je laisse les traces de temps, je suis sur la selle. Ça me gêne et en même temps je trouve ça sexy. Comme une cravate au bout du cou, des cratères sur les genoux. Le revers de ma jupe raccourci pour toi. Pour faire passer le temps, je cherchais des stages au pif. Copiant, collant les lettres de motivation. Attends, attends, laisse-moi faire encore un peu petite maison. Juste pour écouter un dernier son. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi ça, échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat.
Mais non, on continue.
Et puis, on contre-attaque. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Tu sais, je peux me forcer à écrire un truc qui te touche. Même si tu sais que si je veux, j'accouche. Tu changes de visage comme de caleçon. Un jour c'est bon, un jour t'es con. Comme quand t'aimes plaquer ma tête contre la plaque de la cuisinière. J'aimais l'idée que c'était pour me tenir chaud. Parce que sans toi j'ai froid. Sans toi je suis rien, un guérisseur. Qui se rend que j'ai guéri seul. J'ai paumé comme la pomme pote au fond du frigo. Que personne n'ose plus toucher ni jeter. Car j'en vaux peut-être encore la peine. J'ai peut-être encore du potentiel. Moi j'y ai cru en tout cas. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi ça, échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fail. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis, on contre-attaque. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fail.
Radio Collège, la radio qui vous parle et qui vous écoute.